Allez, on va tout de suite retrouver Michel Favré, mais on va se mettre un petit peu dans l'ambiance juste avant.
La terre, elle brille, en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. So we're going to be the greatest adventure ever.
Et oui, on est toujours en direct en ce mercredi 7 janvier. Tout de suite, on va accueillir Michel. Façon de parler, Michel, ça fait quelques années que vous faites partie de la famille. Alors, je vais vous souhaiter le bonjour, la bienvenue, vous souhaiter une bonne année. Et je sais que ça va être sur votre introduction de Chronique. Mais au nom de toute l'équipe, bien sûr, une excellente année pour vous, Michel, et vos proches. On fait un petit coucou à Daniel, qui est là dans les studios avec nous.
Bonjour Joël. Donc effectivement, avant de commencer cette chronique, je souhaite une bonne et heureuse année 2026 à tous nos auditeurs et à l'équipe d'O2 Radio, avec surtout une bonne santé qui est la base de tout le reste. Et j'aurai un souhait particulier pour O2 Radio de bien passer l'année 2026, car on sait que dans les incertitudes concernant le budget de l'État, il y a la menace de restrictions drastiques des subventions accordées aux radios associatives. Et à tous les astronomes amateurs ou curieux du ciel, une bonne météo et un maximum de ciel clair cette année pour pouvoir observer autant que possible, notamment les principaux événements astronomiques prévisibles que nous récapitulerons dans le ciel du mois et surtout la belle éclipse du 12 août.
Allez, c'est parti. Voilà, merci pour vous, bien sûr. Et puis, en ce qui concerne la partie finance, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est bien de ce petit clin d'œil. Allez, 129e chronique à Astro. Et là, Michel, vous allez aborder, bien sûr, le premier point, les actualités, avec notamment des soucis pour le lancement des Soyouz russes.
Alors, je parle plus souvent ici de l'envoi d'astronautes vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, par le vaisseau Crew Dragon de SpaceX. La dernière fois, c'était le 1er août dernier avec les 4 astronautes de la mission Crew 11, 2 Américains, 1 Russe et 1 Japonais, qui doivent revenir sur Terre avec la même capsule en février, après leur relève par l'équipage Crew 12, prévu à partir du 15 février. Mais à côté de ces rotations régulières opérées environ tous les 6-7 mois par les Américains, il ne faut pas oublier que l'ISS est aussi accessible aux Soyouz russes, et c'est le dernier domaine où existe encore une coopération avec la Russie dans le spatial depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, rupture qui a provoqué l'abandon ou le report de nombreuses missions, notamment européennes, qui étaient prévues avec des lanceurs russes ou en partenariat avec l'agence spatiale russe Roscosmos. C'est ainsi que la 74e mission russe vers l'ISS a décollé à bord d'un Soyouz le 27 novembre dernier. J'en avais pas parlé parce que c'était le lendemain de notre dernière chronique. Les 3 passagers, 2 cosmonautes russes et 1 astronaute américain ont rejoint l'ISS seulement 3 heures plus tard, car le tir de la fusée avait été très précisément synchronisé avec l'orbite de l'ISS pour permettre de raccourcir au maximum la durée du trajet jusqu'à la station. Malheureusement, ce tir a provoqué un accident sur le site de lancement de Baïkonour au Kazakhstan qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Les autorités soviétiques sont avares de détails, mais il semble sur les images qu'une des 3 tours qui maintiennent la fusée sur le pas de tir jusqu'à son lancement se serait effondrée, endommageant gravement la plateforme de lancement et notamment le déflecteur qui dévie les flammes des moteurs lors du décollage. L'agence Roscosmos se veut rassurante en annonçant que les éléments de rechange nécessaires sont disponibles pour une réparation dans les plus brefs délais, mais selon un expert russe du domaine spatial, Vitaly Yegorov, les Russes auraient perdu la capacité d'envoyer des cosmonautes dans l'espace pour plusieurs mois, voire peut-être même jusqu'à 2 ans.
Et les cosmonautes russes, justement, sont aussi touchés par d'autres tracas ?
Alors en effet, une affaire pas très claire a été révélée début décembre. On a appris que le cosmonaute russe Oleg Artemiev, qui devait décoller avec la mission américaine Crew 12, comprenant aussi la française Sophie Arnaud, pour rejoindre l'ISS en février, a été brusquement retiré de l'équipage prévu et sera remplacé par Andrei Fediaev, qui a déjà volé à bord de l'ISS en 2022. Les raisons de ce débarquement ne sont pas très claires, mais selon le site russe The Insider, le cosmonaute aurait été surpris en train de prendre des photos des tuyères du lanceur Falcon 9 avec son téléphone, ainsi que de documents classifiés de SpaceX lors de son entraînement à Hawthorne, siège de l'entreprise. Si c'est avéré, il se trouverait en infraction avec la réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international, ou ITAR. Autrement dit, il s'agirait d'une affaire d'espionnage spatial. Roscosmos a annoncé qu'il avait été affecté à d'autres tâches, mais il semble qu'il a en réalité été suspendu pendant une semaine avant d'être expulsé des États-Unis. Les cas de remplacement d'astronautes sur des missions aussi près de leur décollage, environ 2 mois dans cette affaire, sont très rares. Il y a eu en 1970 le remplacement de Ken Mattingly par Jack Swigert, une semaine avant le départ d'Apollo 13 pour la Lune, mais il s'agissait d'une raison purement médicale, car l'astronaute était suspecté d'avoir été contaminé par le virus de la rougeole. Et le seul autre exemple connu, en tout cas de ce que j'ai trouvé, beaucoup plus controversé, a été le retrait en 2018 de l'astronaute Janet Epps de l'équipage du Soyouz MS-07, ce qui a valu à la NASA des accusations de racisme, car elle aurait été la première femme noire à séjourner à bord de l'ISS. Mais il semblerait en fait que sa préparation aurait été incomplète et elle a finalement atteint l'ISS en mars 2024 avec la mission Crew 8.
Et pendant ces déboires côté russe, l'Europe a réussi un beau lancement.
Alors en effet, c'est le 17 décembre qu'a eu lieu le 5e lancement réussi de la fusée européenne Ariane 6 depuis la base de Kourou en Guyane. Ces tirs pourraient ressembler à une sorte de routine, mais cette mission était particulièrement importante pour le lanceur de l'ESA, car c'était la première fois qu'elle portait 2 satellites qui devaient être placés sur 2 orbites différentes. Ariane 6 a été conçue pour ce type d'exercice, qui nécessite de rallumer le moteur Vinci de son étage supérieur dans le vide spatial. Cela a parfaitement fonctionné, puisque les 2 satellites ont été placés avec précision, chacun sur leur orbite, et étaient opérationnels à peine 5 heures après leur lancement. Il s'agit de 2 satellites de la constellation Galileo, qui orbitent à environ 23 000 km d'altitude et participent au système de géolocalisation européen Galileo, concurrent du fameux GPS américain. D'ailleurs, beaucoup des dispositifs assurant le service au sol utilisent conjointement les 2 systèmes sans que leurs utilisateurs le sachent, car le terme GPS est devenu un nom commun. Galileo assure l'indépendance de l'Europe dans ce domaine, car le GPS comprend un volet militaire et les États-Unis sont en mesure de l'arrêter ou le brouiller à leur convenance, notamment dans les zones où des opérations militaires américaines ou de leurs alliés se déroulent. Et avec l'enlèvement illégal d'un chef d'État contesté au Venezuela qu'on vient de vivre, il est sans doute plus prudent pour l'Europe de ne pas dépendre entièrement des USA pour la géolocalisation et le guidage de ses véhicules, bateaux ou avions. Pourquoi pas imaginer un arrêt complet du GPS en Europe quand les USA décideront d'annexer le Groenland ? Ou peut-être plus grave, de fausser légèrement les informations transmises par les satellites, ce qui pourrait provoquer de nombreux accidents.
Alors toujours sur la partie actuelle, une sonde de la NASA qui ne répond plus.
Alors, il s'agit de la sonde MAVEN pour Mars Atmosphere and Volatile Evolution, c'est-à-dire étude implicitement de l'atmosphère et des volatiles de Mars, qui comme son nom l'indique est destinée à étudier l'atmosphère martienne et notamment les mécanismes qui peuvent expliquer sa disparition progressive dans l'espace, puisqu'on sait qu'il y a 3 ou 4 milliards d'années, l'atmosphère martienne était suffisamment dense pour que de l'eau liquide puisse exister à la surface. Elle avait été lancée en novembre 2013 et s'est placée sur une orbite elliptique autour de la planète rouge en septembre 2014. Depuis, elle assurait correctement sa mission, bien au-delà de la durée prévue initialement à 1 an. Mais le 6 décembre dernier, après qu'elle a disparu derrière la planète comme elle le fait toutes les 4h30 environ, bloquant toute possibilité de communication, il n'a pas été possible de rétablir le contact avec elle lorsqu'elle a émergé en vue de la Terre, malgré tous les efforts tentés par les équipes du Deep Space Network. C'est le réseau de communication avec l'espace lointain, composé de 3 grandes antennes paraboliques, 70 mètres de diamètre chacune, situées à Goldstone en Californie, près de Madrid en Espagne et Canberra en Australie. Elles sont les seules capables de communiquer avec les sondes interplanétaires situées à des distances considérables de la Terre, par exemple 360 millions de kilomètres pour Mars quand on a perdu Maven. En dehors de la probable fin de sa mission, cette perte pose aussi un problème, car Maven assurait le relais de communication vers la Terre pour les rovers explorant le sol martien, comme Curiosity et Perseverance. Mais ce service peut être aussi assuré par d'autres orbiteurs encore autour de Mars. En effet, sur les 8 sondes envoyées vers Mars depuis l'an 2000, il y en a encore 6 en fonctionnement. Deux américaines, Mars Odyssey depuis 2002 et Mars Reconnaissance Orbiter ou MRO depuis 2006. Deux européennes, Mars Express depuis 2003 et ExoMars TGO depuis 2016. Une émiratie, Al Amal ou Mars Hope en anglais, depuis 2021. Et une chinoise, l'orbiteur de la mission Tianwen-1, qui comportait aussi un atterrisseur depuis 2021. Avant Maven, qui semble perdue, c'est la sonde indienne Mangalayaan, ou Mars Orbiter Mission, qui a terminé sa mission en 2022, sans doute faute de carburant, après environ 8 ans d'études de l'atmosphère martienne, alors qu'elle n'était prévue que pour une mission de 6 mois. Les orbiteurs encore en service seront rejoints à la fin de l'année par deux microsondes de la mission Escapade, lancée en novembre dernier par la fusée New Glenn de Blue Origin.
Alors après ces informations spatiales, quelques nouvelles des observatoires astronomiques terrestres.
Oui, mais c'est une mauvaise nouvelle de Noël, car le 25 décembre, les violentes rafales de vent d'une tempête, jusqu'à 180 km/h, ont endommagé l'observatoire historique de Lick en Californie. Elle a bien sûr provoqué bien d'autres dégâts, pluies torrentielles, inondations, et selon les scientifiques, on peut y voir l'effet du réchauffement climatique qui rend ces phénomènes extrêmes plus fréquents et plus destructeurs. Concernant l'observatoire, le vent a arraché une des portes du cimier, c'est la partie mobile de la coupole permettant d'ouvrir une fenêtre sur le ciel pour l'observer, qui est venue endommager le toit du bâtiment attenant. Cet observatoire a été construit entre 1876 et 1887 sur le mont Hamilton de 1283 mètres d'altitude, ce qui était une première pour l'époque, et a été financé par le mécène James Lick, d'où son nom, qui avait fait fortune lors de la ruée vers l'or et a souhaité être enterré sur place. Il comprend différents instruments, mais la coupole endommagée abrite depuis 1888 une lunette de 91 cm de diamètre et 17 mètres de focale. C'est la troisième plus grande du monde, ou quatrième si on inclut la lunette de 1,25 m de l'exposition universelle de Paris en 1900, démontée après l'événement. La lunette Lick avait permis de nombreuses découvertes historiques, notamment les petits satellites de Jupiter, Amalthée, Ellara et Himalaya, entre 1892 et 1905. Lorsqu'ils ont pu revenir sur le site, les techniciens de l'observatoire ont constaté que la lunette, vieille de 137 ans, n'avait pas subi de dégâts directs, mais que son optique et son système électrique avaient été exposés à la pluie et ils les ont rapidement protégés. Selon le directeur, la réparation du dôme sera un chantier assez long, dont la durée se comptera probablement en mois. À noter que l'observatoire avait déjà été menacé par des feux de forêt en 2020. Et enfin, même s'il ne s'agit pas d'un observatoire terrestre mais du télescope spatial Hubble, une observation intéressante a été relatée dans un article publié le 18 décembre dans la prestigieuse revue Science par une équipe dirigée par Paul Kallas, un astronome gréco-américain de l'Université de Californie à Berkeley. Il s'intéresse notamment à l'étoile Fomalhaut, la plus brillante de la petite constellation du Poisson austral située sous le Verseau. Distante d'environ 25 années-lumière de nous, elle est à peu près deux fois plus grosse que notre Soleil, mais c'est surtout une étoile jeune, âgée de seulement 100 à 300 millions d'années, à comparer aux 4,5 milliards d'années de notre Soleil. C'est autour de ces jeunes étoiles que l'on peut observer des disques protoplanétaires, composés de gaz et de poussière, résidus de la naissance de l'étoile, au sein desquels peuvent se former de nouvelles planètes. C'est ce qu'étudie justement l'équipe de Paul Kallas, notamment avec le télescope spatial Hubble. Et sur des images prises en 2008, ils ont vu apparaître un point brillant en bordure du disque qui n'était pas visible sur les photos précédentes. Ils avaient pensé avoir découvert une exoplanète orbitant autour de Fomalhaut, qu'ils avaient même baptisée Dagon, d'après les romans de H.P. Lovecraft. Mais une autre équipe avait observé en 2020 la dispersion de cet objet. On avait conclu qu'il devait s'agir d'un nuage de débris produit par la collision de deux planétoïdes. En effet, avant d'aboutir à des systèmes planétaires comme notre système solaire, on sait aujourd'hui qu'on passe par une phase où de nombreux petits planétésimaux, jusqu'à la taille de Mars environ, orbitent de manière confuse, ce qui peut produire des impacts catastrophiques, comme celui qui aurait donné naissance à notre Lune, selon la théorie généralement admise aujourd'hui, mais qui peut aussi provoquer la désintégration des deux objets se percutant, comme le montrent des simulations numériques. Mais alors qu'on estimait jusque-là que de tels chocs ne se produisaient qu'assez rarement, en moyenne tous les 100 000 ans environ, un nouveau point brillant est apparu dans le disque protoplanétaire de Fomalhaut en 2023, seulement 15 ans après le précédent. D'après les analyses, il pourrait s'agir dans les deux cas de collisions d'objets relativement petits, de l'ordre de 60 km. Mais ces deux observations aussi rapprochées doivent nous amener à revoir les modèles théoriques qui les prédisaient beaucoup plus rares. Pour sa part, l'équipe de Paul Kallas a déjà réservé du temps d'observation sur Hubble pour pouvoir suivre l'évolution du nuage de débris de 2023, car situé dans une zone plus dense du disque, il pourrait donner lieu à une cascade de collisions, un peu comme le syndrome de Kessler redouté pour les débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Et enfin, une petite nouvelle de dernière minute, parce que je l'ai appris ce matin, et c'est une bonne nouvelle. Je me suis plaint plusieurs fois ici des restrictions budgétaires drastiques que Trump entendait faire subir à la NASA pour 2026, je crois de l'ordre de 26% de réduction de son budget. Or, j'ai appris que le Congrès américain n'avait pas suivi ses recommandations et s'apprêtait ou a déjà voté, j'ai pas bien vu, un budget qui est pratiquement l'équivalent de celui de l'année dernière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'astronomie et surtout la conquête spatiale.
Très bien, Michel, pour le complément, bien sûr. Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio en ce mercredi 7 janvier. C'est notre journal. On est avec Michel Favre pour sa 129e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie. Voilà le sujet, le thème du mois avec la mécanique céleste et le calendrier.
Alors, j'ai eu l'idée de lier ces deux sujets car la mécanique céleste explique certains phénomènes qui se produiront en 2026, éclipses et occultations, comme nous le verrons dans la rubrique ciel du mois. Mais c'est aussi la base de notre calendrier qu'on vient de changer pour une nouvelle année, sujet que j'avais déjà abordé plus en détail lors des chroniques de février 2024 et décembre 2022, pour ne pas remonter plus loin dans notre historique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter les chroniques disponibles sur notre site web www.constellationsetgalaxies.org dans la rubrique chronique Eau de Radio, accessible par le choix astronomie en haut à droite de l'écran. Lorsqu'on observe le ciel la nuit, nuit après nuit, et il ne faut pas oublier que pendant des milliers d'années, jusqu'à la lunette de Galilée en 1609, l'humanité n'a regardé la voûte étoilée qu'à l'œil nu, on voit des petits points brillants nommés étoiles. Mais au fil des nuits, on constate que certains se déplacent par rapport à l'immense majorité des autres qui sont fixes. Les Grecs de l'Antiquité les ont nommés planètes, planétès en grec, ce qui signifie « astres errants ». Et cela comprenait à leur époque aussi la Lune et le Soleil. Une courte observation de quelques heures, de jour ou de nuit permet de constater un mouvement de rotation régulier de l'est vers l'ouest, du Soleil dans la journée, des étoiles la nuit. Et cela se répète indéfiniment au long de ce qu'on appelle des jours et qu'on a arbitrairement divisé en 24 heures, 12 heures de jour et 12 heures de nuit, même si leur durée varie en réalité au fil des saisons, comme nous pouvons le constater en hiver avec des nuits très longues alors qu'elles sont bien plus courtes en été. Il faut dire que cette division a sans doute été inventée environ 2000 ans avant notre ère, en Égypte, civilisation située à des latitudes où la différence saisonnière est beaucoup plus faible que pour nous, oscillant grosso modo entre 11 et 13 heures et pas du simple au double comme en France. Et la division en 12 semble avoir été dictée par analogie avec les 12 mois de l'année.
Et ces 12 mois viennent de la Lune ?
Oui, mais ça va un peu trop vite. Revenons aux observations. Tout le ciel semble tourner d'est en ouest autour de la Terre, et les anciens avaient toutes les raisons de penser qu'elle était le centre du monde. Si on est plus précis, ce mouvement général concerne les étoiles que l'on imaginait supportées par la sphère des fixes, puisqu'elles ne se déplaçaient pas les unes par rapport aux autres. Et on pouvait bien se figurer une immense sphère tout autour de nous, puisque nos yeux ne peuvent pas distinguer de profondeur dans le ciel, donc il est logique de placer tous les objets célestes à la même distance. Alors, tous, pas tout à fait, car il ne faut pas oublier les planètes qui se déplacent par rapport aux fixes, aux étoiles, et qui sont au nombre de 7 dans l'Antiquité. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. et toutes possèdent un mouvement rétrograde car elles se déplacent de l'ouest vers l'est par rapport aux étoiles. Le plus remarquable est bien sûr l'éclatant soleil. Et en observant quelles étoiles on peut voir soit le soir après son coucher, soit le matin juste avant son lever, on peut constater qu'au fil des saisons, même en Égypte il y avait des saisons cadencées par les crues du Nil, le soleil parcourt un grand cercle parmi les étoiles et ce cycle a défini l'année qui dure environ 365 jours, ce que les Égyptiens avaient déjà déterminé. Pour ce qui concerne les astres qui sont visibles la nuit, la Lune est celle qui se déplace le plus vite par rapport aux étoiles, car il est facile de constater son mouvement en l'observant à seulement quelques heures d'intervalle. Elle se décale vers l'est de l'équivalent de son diamètre en environ une heure. Mais elle possède une autre caractéristique étonnante, car elle change chaque jour d'aspect, passant de la nouvelle lune, invisible, au croissant, puis au premier quartier, devenant ensuite gibbeuse, c'est-à-dire bossue en gaulois, croissant jusqu'à la pleine lune avant de commencer à se réduire, passant dans l'autre sens à gibbeuse, au dernier quartier, puis un croissant, jusqu'à la nouvelle lune suivante qui recommence un nouveau cycle. En observant sa position relative au soleil, on peut comprendre que ces changements proviennent de la variation de l'angle sous lequel il éclaire la lune. Ce cycle, la lunaison, dure une trentaine de jours, 29 et demi si on veut être précis. Et c'est bien lui qui nous a donné les mois des premiers calendriers lunaires, alternant des mois de 29 et de 30 jours, car ce cycle lunaire était le moyen le plus simple de suivre l'écoulement des jours. Une année compte donc 12 mois, ou lunaison, mais cela ne tombe pas juste car cela fait 354 jours et non 365. Pour savoir comment on a essayé de réconcilier l'année solaire avec les mois lunaires en les étirant à 30 ou 31 jours, je propose à nos auditeurs de réécouter la chronique de décembre 2024 disponible sur notre site.
Et les autres planètes, Michel ?
Alors en observant leur mouvement par rapport aux étoiles dans le ciel, on constate qu'elles se déplacent chacune à leur rythme. Du plus rapide, Mercure, effectuant un tour en environ 3 mois, à la plus lente, Saturne, qui met presque 30 ans à parcourir son cercle dans la voûte étoilée. C'est sur cette base qu'elles ont été nommées, sauf Vénus, qui est la plus brillante dans le ciel, donc la plus belle, et que les Grecs ont logiquement nommée Aphrodite, hein, déesse de la beauté et de l'amour, et Mars, dont la couleur orangée évoquait le sang, donc le dieu de la guerre, Arès pour les Grecs. Pour les trois autres, tout est affaire de vitesse, puisque la plus rapide, Mercure, ne pouvait être que le messager des dieux, Hermès. Puis, comme on se déplace de moins en moins vite en vieillissant, son père Zeus, Jupiter pour nous les Romains, puis le grand-père Cronos ou Saturne pour nous. En les observant, on constate qu'elles se déplacent grosso modo dans la même zone du ciel que le Soleil, ce qu'on nomme zodiaque, hérité d'un terme grec signifiant « cercle des animaux ». Car pour lire le ciel comme un calendrier, on avait divisé le trajet du soleil en 12 portions, pour les 12 mois, ou mensions, hein, ce qui veut dire maison, repérées par des étoiles remarquables autour desquelles on a progressivement dessiné les constellations avec d'autres étoiles. Et malgré l'exception de quelques figures humaines comme le Verseau ou les Gémeaux, par exemple, la plupart sont des animaux comme le lion, le bélier, le taureau, etc. Je pense que la plupart de nos auditeurs feront naturellement le lien entre ce que je suis en train de décrire et l'astrologie, une croyance qui remonte à l'Antiquité grecque et avant elle la Mésopotamie, et qui existe aussi dans d'autres cultures comme la Chine par exemple. L'origine en est simple, comme les planètes se déplaçant dans le ciel étaient assimilées à des dieux, comme l'indique leur nom, on cherchait à interpréter leur mouvement dans le ciel pour essayer de deviner leurs intentions et donc prédire les événements qui toucheront les humains. Depuis, on a quand même fait quelques progrès dans notre connaissance du cosmos, et l'astrologie n'est plus qu'une discipline un peu folklorique pour les astronomes, et surtout extrêmement datée, car n'ayant pratiquement pas évolué depuis plus de 3000 ans. En particulier, les astrologues interprètent les rapprochements des planètes entre elles ou avec la Lune, ce que les astronomes appellent conjonction. Il est facile de comprendre que lorsque 6 objets se déplacent la nuit chacun à leur rythme, dans la même région du ciel, il y a fatalement des moments où 2, plus rarement 3 d'entre eux, se rapprochent visuellement de manière plus ou moins serrée, souvent l'équivalent de la largeur de 2 ou 3 doigts bras tendus, plus rarement un seul ou encore moins. Le cas extrême est l'occultation, quand la Lune masque une planète en glissant devant elle, ce qui se produira en 2026 avec Vénus, comme nous allons le voir. Vu sa taille dans le ciel, la Lune occulte aussi très souvent des étoiles, mais la plupart du temps, elles ne sont pas assez brillantes pour être visibles à l'œil nu. Néanmoins, ce sera le cas en janvier, avec l'amas des Pléiades, facilement repérable dans le taureau.
Et pour les éclipses ?
Alors, d'une certaine façon, ce sont des occultations, mais qui mettent en scène la Lune et le Soleil, ou la Lune et la Terre pour les éclipses lunaires. Je ne donnerai que les informations basiques aujourd'hui, car nos auditeurs pourront avoir beaucoup plus de détails en réécoutant la chronique de février dernier. Pour faire simple, comme la Lune fait le tour de la Terre en environ un mois, on pourrait s'attendre à ce qu'elle passe à chaque fois devant le Soleil en provoquant une éclipse. Mais ça n'est pas le cas, car généralement c'est simplement une nouvelle Lune, c'est-à-dire un jour où la Lune est invisible, car proche du Soleil et tournant vers nous en plein jour, sa face noire non éclairée. L'explication est que l'orbite de la Lune, le cercle qu'elle décrit parmi les étoiles, ne coïncide pas avec celle du Soleil, qu'on appelle d'ailleurs écliptique, car c'est là que se produisent les éclipses. Les deux cercles sont écartés d'environ 5 degrés, bien plus que le diamètre de la Lune et du Soleil, qui sont d'environ 1,5 degré dans le ciel. Pour que la nouvelle Lune ne passe pas au-dessus ou en dessous du Soleil dans le ciel, il faut qu'elle se produise alors que les deux astres sont très proches des points où leurs deux orbites se coupent, qu'on appelle des nœuds, et sont deux à l'opposé dans le ciel. Il y a donc généralement deux éclipses solaires par an, et 2026 ne fait pas exception. Quant aux éclipses de Lune, c'est-à-dire la Lune traversant l'ombre de la Terre, ce qui nécessite aussi un alignement des trois astres Soleil-Terre-Lune, elles ne peuvent aussi se produire que lorsque la pleine Lune se situe proche d'un nœud, donc elles précèdent ou suivent généralement une éclipse solaire à environ 15 jours d'intervalle. Par exemple, en 2026, pour les deux éclipses que nous pourrons observer, le 12 août, une éclipse solaire, et le 28 août, pour l'éclipse lunaire. Je crois que je vais m'arrêter là pour expliquer les principaux phénomènes astronomiques courants et les éléments du calendrier à partir de l'observation simple du mouvement des astres dans le ciel, ce qu'on nomme mécanique céleste. Mais je ferai remarquer à nos auditeurs que je l'ai fait avec une représentation géocentrique de l'univers, c'est-à-dire avec la Terre placée au centre. Mais il est évident que cela ne correspond plus du tout à notre représentation actuelle du cosmos. En effet, au XVIIe siècle, la recherche d'une explication au mouvement complexe des planètes dans le ciel, qui ne peuvent pas se résumer à de simples révolutions circulaires, en particulier le phénomène bizarre des boucles de rétrogradation, observé très précisément pour Mars par son prédécesseur Tycho Brahe, Johannes Kepler a défini les lois du mouvement des planètes autour du Soleil, validant le modèle héliocentrique imaginé par Copernic, ce qui sera confirmé par les observations de Galilée avec la première lunette astronomique, puis mise en équation mathématique par Newton au siècle suivant. Mais au regard des millénaires d'observations du ciel par l'humanité, cela relève d'une conception relativement moderne de la mécanique céleste, puisque vieille de seulement 4 siècles.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, en ce mercredi 7 janvier 2026. C'est notre journal d'information locale culturelle, toujours avec Michel Favré, qui est venu nous présenter sa 129e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, www.constellationsetgalaxies.org. Pour voir les cartes du ciel et avoir plus de détails, je l'ai mise à jour pour janvier, lundi. Comme on vient de passer le solstice d'hiver du 21 décembre, jour le plus court de l'année, l'observation du ciel nocturne peut se pratiquer très tôt le soir, car en ce moment le soleil se couche vers 17h30, la nuit arrive vers 18h45 et le ciel bien noir dès 19h30. Ce sera à peine plus tard fin janvier, avec le coucher vers 18h et la nuit un peu après 19h. Comme nous sommes au début de l'hiver, en début de nuit, le ciel est encore partagé entre les constellations de l'automne, dans sa moitié ouest, et celle de l'hiver vers l'est. À peine décalée vers l'ouest, la constellation vedette du ciel d'automne domine très haut dans le ciel presque au sud, Pégase, bien reconnaissable à son grand carré assez régulier, presque vide d'étoiles, et dans le prolongement de sa diagonale, Andromède, dans laquelle on peut observer la grande galaxie, même avec une simple paire de jumelles. C'est l'objet le plus lointain visible à l'œil nu, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Je rappelle que selon le mythe, Pégase est né du mélange du sang de la méduse et de l'eau de mer, Et comme il est représenté dans le ciel à sa naissance, on a sous lui des constellations qui évoquent l'eau, et notamment les poissons, qui dessinent comme un grand V entre Pégase et la baleine. Vers le sud-est, on trouve la constellation vedette du ciel d'hiver, le chasseur Orion, bien reconnaissable à sa figure évoquant une silhouette humaine. On le repère facilement aux trois étoiles bien alignées qui forment sa ceinture, surnommée les rois mages, car elles apparaissent dans le ciel en début nuit à peu près vers Noël. On peut trouver aussi qu'Orion dessine comme un papillon, dont le corps serait cette ligne de trois étoiles, et les ailes formées par deux étoiles plus écartées au nord et aussi au sud. En réalité, ses épaules et ses pieds. Une fois repéré Orion, on peut remarquer que les étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver forment autour de lui comme un grand G majuscule, en commençant devant lui, c'est-à-dire à l'ouest, Aldébaran du taureau, Capella du cocher, Castor et Pollux des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante de tout le ciel, hémisphère sud compris. Et enfin, Rigel, le pied droit d'Orion, puis on referme la barre du G avec les épaules d'Orion, Bellatrix et Bételgeuse, reconnaissables à sa couleur orangée, comme Aldébaran, car ce sont toutes deux des géantes rouges, c'est-à-dire de vieilles étoiles en fin de vie. On a ainsi situé les principales constellations de l'hiver tout autour d'Orion, et si on veut plus d'explications, on peut réécouter la chronique astro de décembre 2024 où j'avais détaillé la description du ciel d'hiver. Attention, cette année, la figure du grand G est un peu brouillée par la présence de la très brillante planète Jupiter située près de Pollux. Côté planète, c'est justement Jupiter qui est sans conteste la vedette du ciel de saison, même si en ce moment, elle se lève peu avant le début de nuit et donc elle est encore trop basse pour être observée dans de bonnes conditions. Il vaut mieux la laisser monter un peu, au moins jusqu'à 20 heures en ce moment, mais encore mieux plus tard, car il culmine haut au sud vers 2 heures. En fin de mois, ce sera seulement 23h30. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ces quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. Pour Saturne, c'est l'inverse. Il vaut mieux l'observer en début de nuit, car elle a déjà franchi le méridien sud et commencé sa descente vers l'ouest pour se coucher, vers 23h30 en ce moment, 22h en fin de mois. Mercure, Vénus et Mars sont toutes les trois très proches du Soleil ce mois-ci et ne peuvent pas être observées. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes et ça a commencé samedi dernier, 3 janvier, où une très grosse Lune gibbeuse, presque pleine, était proche de Jupiter. Cela se reproduira le vendredi 30, mais avec un écart un peu plus grand, environ la largeur de 3 doigts bras tendus. Une semaine plus tôt, le vendredi 23, le croissant de lune se sera approché de Saturne. Mais il faudra les observer en début de nuit car le duo se couchera assez tôt, vers 22h30. Enfin, un rapprochement qui n'est pas strictement une conjonction car elle ne concerne pas une planète mais des étoiles. Le mardi 27 janvier, la lune gibbeuse sera assez proche de l'amas des Pléiades dès le début de nuit et s'en rapprochera heure après heure, au point de commencer à passer devant certaines de ces étoiles entre 22h30 et 23h30, ce qu'on appelle une occultation. Les Pléiades sont un groupe très serré d'étoiles brillantes, faciles à repérer dans le taureau. Selon son acuité visuelle, on peut en distinguer généralement entre 5 et 9. Elles sont surnommées les 7 sœurs, depuis la Grèce antique où on les avait identifiées aux filles d'Atlas.
Et concernant les phénomènes astronomiques moins fréquents, que nous réserve l'année 2026 ?
Alors selon les éphémérides, nous aurons deux conjonctions assez serrées. Le 9 juin pour Vénus et Jupiter et vraiment très proche pour Mars et Jupiter le 15 novembre. Il y aura aussi une occultation de Vénus par la Lune le 14 septembre. Mais de la France, nous ne pourrons voir que l'émergence de la planète du croissant de Lune, derrière lequel elle était masquée lorsqu'elle s'est levée. Mais le phénomène astronomique le plus marquant de l'année sera la belle éclipse de soleil du 12 août. Comme la plupart des années, il y aura deux éclipses de soleil, la première dès le 17 février, mais pour l'observer, il faudrait se rendre en Antarctique. De plus, elle ne sera qu'annulaire, c'est-à-dire que la Lune sera trop loin de la Terre pour pouvoir masquer totalement le soleil, donc laissant visible un anneau de lumière autour de la Lune noire. Celle du 12 août n'a rien à voir, car elle sera totale, tout le long d'une bande traversant l'Espagne en biais, du nord-ouest, vers Gironde, jusqu'à l'est, du côté des Baléares. Comme je l'ai déjà dit ici, cela vaudra la peine de faire le déplacement de quelques centaines de kilomètres pour vivre l'expérience unique d'une éclipse totale, phénomène très impressionnant. Mais il ne faudra pas s'y prendre au dernier moment, car ce genre d'événement lance des millions de véhicules sur les routes et il est probable que d'énormes bouchons empêcheront beaucoup de spectateurs d'arriver dans la zone requise. Si on reste dans la région de Bordeaux, l'éclipse sera assez forte, avec plus de 97% du soleil masqué par la lune, ne laissant visible qu'un très fin croissant lumineux. Mais ce spectacle n'a rien à voir avec la vision extraordinaire d'une éclipse totale. Cette éclipse a un gros défaut, elle se produira très tard le soir, le maximum étant vers 20h30, donc avec un soleil très bas, offrant des conditions de visibilité assez défavorables. Il est conseillé de se déplacer vers un site d'observation ayant un horizon nord-ouest bien dégagé, comme le bord de mer ou une crête de colline, en espérant que la météo ne nous jouera pas un mauvais tour avec par exemple une forte brume d'horizon. Attention, comme pour toutes les éclipses, il sera indispensable de se munir de lunettes spéciales pour pouvoir regarder le soleil sans risquer de dommages aux yeux. Comme je l'ai déjà expliqué, les éclipses de soleil sont toujours précédées ou suivies par une éclipse de lune à environ 15 jours d'intervalle. En 2026, ce sera d'abord le 3 mars, mais nous ne pourrons pas l'observer car la lune se couchera 2 heures avant son début. Et ce sera à peine mieux pour la seconde du 28 août, car on ne pourra observer que le début du phénomène, la lune se couchant une demi-heure avant la sortie de l'ombre de la Terre, très tôt le matin entre 4h30 et 7h30, et plutôt bas vers le sud-ouest. Et pour conclure cet agenda astronomique 2026, de tous les phénomènes prévisibles, on peut toujours espérer la surprise du passage dans le ciel d'une très belle comète encore inconnue, comme l'automne dernier, ou l'explosion inattendue d'une supernova visible à l'œil nu.
Et concernant les missions spatiales, connaît-on déjà les rendez-vous notables pour cette nouvelle année 2026 ?
La mission majeure sera Artemis 2 de la NASA, avec l'envoi de 4 astronautes jusqu'à la Lune pour en effectuer une large orbite. Le lancement pourrait avoir lieu dès février. Elle sera précédée en janvier d'un test inhabité du module lunaire Blue Moon, qui devrait allunir en douceur. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est développé par Blue Origin, une société de Jeff Bezos d'Amazon, et qu'il est le principal concurrent du Starship de SpaceX, donc Elon Musk, pour déposer des astronautes sur la Lune. Le Starship, devrait lui être prochainement testé en orbite terrestre dans une nouvelle version, dite V3, essai qu'on attendait en décembre, mais qui a dû être retardé par un accident au sol fin novembre, dont j'avais parlé la dernière fois. Et toujours pour la Lune, la Chine doit poser sa sonde Chang'e 7 en octobre vers son pôle sud. Du côté de l'Inde, on attend pour le printemps le premier lancement de sa capsule Gaganyaan. Gaganyaan, pour un test inhabité en orbite terrestre, avec pour objectif un premier vol avec astronautes, peut-être dès 2027. En ce qui concerne l'exploration des planètes, la mission BepiColombo, lancée en octobre 2018, devrait atteindre Mercure en novembre, où ces deux modules, l'un européen, l'autre japonais, se sépareront avant de se placer en orbite pour l'étudier. Et enfin, une autre mission de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec HERA, lancée en octobre 2024, qui atteindra le petit astéroïde Dimorphos pour étudier l'effet de l'impacteur DART de la NASA, qu'il a percuté en juin 2020, ce qui pourra confirmer l'efficacité de cette solution pour dévier un éventuel astéroïde géocroiseur qui menacerait de venir percuter la Terre. Pour conclure ce planning, en attendant ces phénomènes ou missions, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 4 février, sauf imprévu qui obligerait à l'avancer au 28 janvier.
Voilà, merci Michel, et bien sûr pour tout ce joli travail. Voilà, on connaît votre implication, votre passion, vos compétences là pour le calendrier à suivre. On verra ensemble, bien sûr, parce qu'il y a plein d'échéances. Avant de se quitter, un dernier mot.
Oui,
en entendant
parler tout à l'heure du froid que on peut tous constater, je voulais juste rappeler qu'en ce moment, on est au plus près du Soleil, dans l'orbite elliptique de la Terre autour du Soleil. Je ne sais pas la date exacte, je crois que c'était le 3 janvier, enfin c'est toujours début janvier, ce qui prouve bien que les saisons n'ont rien à voir avec la distance de la Terre au Soleil, mais on sait tous que c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil qui est le phénomène, enfin qui est à l'origine du phénomène des saisons. Donc il fait froid, mais on est pourtant au plus près du soleil pour cette année 2026.
Très bien pour ces ultimes précisions. Merci beaucoup, Michel.